Bien, merci Marie-Paul pour l'invitation à ce séminaire. Bonjour à tous, je m'appelle Tammy Woubaker, je suis professeur à Télécom Paris Tech, où j'anime une équipe de recherche sur l'informatique graphique 3D. Et un de nos grands axes de recherche, c'est la modélisation géométrique, et en particulier ces temps-ci, l'analyse de forme. Donc mon séminaire traitera du traitement de l'analyse et l'édition de formes 3D numérisées, et en particulier de la manière dont l'analyse peut rendre disponibles les données numérisées brutes aux applications de modélisation interactive. Alors tout commence avec la numérisation 3D, qui n'est pas quelque chose de si nouveau que ça en informatique graphique. Déjà dans les années 90, un certain nombre de projets, dont le fameux projet Digital Michelangelo de Stanford, avait étudié la capacité à générer un très très grand nombre d'échantillons 3D à partir d'objets réels pour essayer de reproduire un petit peu finalement une caméra 3D qui permet de capturer des objets réels et d'en faire des modèles numériques. Alors à l'époque, il faut un certain temps pour numériser des formes 3D et il faut un savoir-faire certain. Donc ce n'est pas une activité anodine et puis c'est vraiment réservé à des spécialistes. Aujourd'hui, des périphériques de capture à bas coût, des périphériques de capture mobiles et très efficaces sont disponibles un peu partout, et même par stéréovision pure, autrement dit uniquement à partir d'images de photos prises d'un objet réel, on peut reconstituer en 3D un objet assez fidèlement. On parle ici de vision par ordinateur, et c'est un petit peu l'entrée de la géométrie numérique. On commence par capturer une information du monde réel, et on reconstitue une information en trois dimensions pour l'ordinateur. Alors évidemment, quand on commence à avoir beaucoup, beaucoup de modèles 3D numérisés automatiquement ou semi-automatiquement, eh bien, les traiter, les structurer, les rendre modulables, adaptables aux outils de modélisation interactive, ce n'est plus quelque chose que l'on peut faire à la main. Et on souhaite que l'ordinateur nous aide et comprenne un peu pour nous la forme 3D que l'on a numérisée pour la rendre modifiable. On peut ajouter à cela deux choses. D'une part, les données 3D sont de plus en plus massives. Les capteurs modernes génèrent des centaines de millions d'échantillons à une vitesse très importante à partir du monde réel pour modéliser très précisément des environnements, des objets, des humains, etc. Et puis surtout, on est capable aujourd'hui aussi de numériser des objets 3D en mouvement, de manière complètement passive. Ici, c'est un projet que nous avions réalisé en 2008 avec mes collègues de l'Université de Vancouver, où on numérise des vêtements en trois dimensions sans avoir besoin de placer de marqueur dessus, uniquement en utilisant des caméras à très haute résolution et en faisant de la vision par ordinateur, en reconstituant la géométrie à partir de différents flux deux-dimensionnels. Donc lorsque l'on mélange un petit peu toutes ces contraintes, on a clairement besoin de combiner d'un côté des modèles de données capturées qui peuvent être variés, la géométrie d'une part, mais aussi l'apparence, le mouvement et encore d'autres choses, et puis des modèles de calcul qui doivent être suffisamment efficaces pour rendre ces données disponibles aux applications réelles. L'efficacité pour les systèmes interactifs, ce n'est pas un vain mot, il faut que le retour soit interactif pour que l'utilisateur profite de ces données dans un environnement où il explore l'espace des formes possibles progressivement, sans savoir exactement où il va. Donc voilà, à cette étape-là, l'analyse de forme doit combiner un petit peu ces données et ces contraintes pour fournir aux utilisateurs qui veulent employer ces données dans leur logiciel pour créer de nouveaux mondes virtuels, par exemple, et bien des primitives puissantes de traitement et d'analyse. Alors si on regarde un petit peu comment la chaîne 3D fonctionne, à partir d'une forme en trois dimensions, qui donc a été numérisée automatiquement, les traitements fournissent des versions différentes de cette même forme. Lorsqu'on a affaire à un maillage, par exemple, on a tendance à vouloir traduire les primitives de traitement du signal classique à la géométrie du maillage, à savoir le sous-échantillonnage, la reconstruction, le filtrage, et donc on retrouve ces opérateurs de simplification, de subdivision, de lissage de surface, qui améliore et adapte l'objet 3D à une application 3D particulière, que ce soit une simulation à très grande échelle au CEA ou une application de divertissement sur un téléphone mobile. L'analyse 3D fonctionne un petit peu différemment. L'analyse à partir de la forme va générer un ensemble de paramètres, une forme de compréhension de la forme 3D. Ces paramètres peuvent être réinjectés dans les opérateurs de traitement pour améliorer le traitement ou le rendre plus effectif. Mais ils peuvent aussi être exploités dans un environnement où l'on va transformer la forme. Et un humain va interagir avec la forme au travers du peu de paramètres que l'on a extraits de la forme et qui sont significatifs à la forme. En fait, ces paramètres ont beaucoup plus d'applications que ça. Et en particulier, si on commence à vouloir raisonner sur la forme, si on souhaite que la machine comprenne la forme, souvent il va falloir une étape d'analyse pour extraire un petit ensemble de paramètres compacts qui expliquent la forme à la machine et de manière intelligible pour la machine. Alors, on a travaillé sur l'analyse de formes depuis un certain nombre d'années dans mon équipe, en particulier, dans un premier temps, sur les formes animées. On avait besoin, pour ces grands ensembles de formes, d'extraire le mouvement de la géométrie. Lorsque l'on fait de la numérisation 3D animée, on a une donnée qui embarque à la fois l'animation de l'objet et puis sa géométrie locale. Ce que vous voyez ici, c'est un système qui fait du reverse engineering. On essaie d'apprendre le mouvement, on essaie de l'extraire de la forme animée à gauche, qui est une succession de maillages qui numérise une séquence. On extrait ce mouvement au milieu et on reconstitue la séquence que vous voyez à droite en multipliant en quelque sorte le mouvement par une unique instance de la géométrie que vous voyez à gauche. Vous voyez que la différence entre la gauche et la droite est imperceptible et on peut parfaitement contrôler l'erreur que l'on commet lorsque l'on fait ça. Donc ce que vous voyez au milieu, c'est un exemple d'analyse. Une analyse ici par cage, un objet relativement simple, composé de peu d'éléments, mais qui arrive à capturer l'essentiel du mouvement de la forme en trois dimensions et en mouvement. Alors dans cette présentation, je vais discuter trois classes de techniques d'analyse qu'on a développées l'an dernier, enfin sur lesquelles on a travaillé l'an dernier. J'en ai choisi trois parce que ces trois-là ont un potentiel d'application assez élevé. Souvent, on peut imaginer qu'il y a autant de méthodes d'analyse qu'il y a d'applications qui ont besoin qu'on fasse de l'analyse. Donc c'est souvent intéressant d'essayer de trouver des frameworks pour lesquels il y a plus d'une application possible à la technique développée. Dans un premier temps, je vais vous parler d'analyse spatiale et de la capacité à représenter un objet 3D avec peu de valeur. Et je vous parlerai notamment d'un nouveau modèle de représentation, les maillages de sphères. Dans un deuxième temps, on ira à l'autre extrémité du spectre. On va parler un petit peu d'analyse statistique et de la manière dont ce genre de technique permet de reconnaître des formes, de reconnaître des motifs, de reconnaître des structures automatiquement. Reconnaître la répétition dans un objet 3D, c'est déjà un petit peu le comprendre. Donc ça permet déjà d'implémenter un certain nombre d'outils intéressants. Et puis enfin, je terminerai sur l'analyse morphologique et la manière dont ce type d'opérateurs peuvent être employés sur les données dont je vous parlais à l'instant, les données numérisées, qui n'ont pas a priori la bonne structure de départ pour pouvoir subir de la morphologie mathématique. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler d'analyse spatiale et en particulier d'approximation de forme. L'approximation, lorsqu'on la pousse à l'extrême, lorsqu'on essaie d'approximer une forme complexe avec très très peu de valeur, c'est déjà une forme d'analyse. Et cette forme d'analyse est très utile à certains outils interactifs. On peut résumer la question à la suivante. Si je vous donne cette forme 3D-là et que je vous demande de l'approximer avec 1000 primitives, comment automatiquement construire une approximation composée de 1000 primitives qui respecte le mieux possible la géométrie de cet objet-là? En fait, la modélisation par maillage fonctionne à cette échelle. Si on pousse beaucoup plus loin la simplification de maillage, telle que proposée par Garland par exemple, on voit que très vite, l'utilisation d'un maillage polygonal n'est plus à même de représenter la forme avec très très peu de valeur. Et c'est justement ce que l'on souhaite. Plus l'analyse est puissante, plus elle va arriver à compacter l'information géométrique en peu de valeur. Donc essentiellement, ce que cet exemple nous montre, c'est que la représentation par maillage, lorsque l'on est dans l'approximation extrême, n'est pas adaptée ici. Ce que l'on propose, c'est un autre type de représentation très proche des maillages. En fait, c'est un maillage, mais c'est un maillage qui existe dans un espace de dimension légèrement plus élevée. C'est un maillage où tous les points embarquent une position dans l'espace, mais aussi une épaisseur, une information sur l'épaisseur locale de la forme. On appelle ça les maillages de sphère, puisque un point et une épaisseur, essentiellement, c'est une sphère dans l'espace. C'est un point en quatre dimensions, mais c'est une sphère. Et on conserve l'idée d'un maillage en équipant ces différentes sphères d'une structure composée de simplex, essentiellement des arêtes et des faces, autour desquelles on va définir une interpolation linéaire, de la même façon que la géométrie d'un maillage polygonal, c'est une interpolation ponctuelle linéaire le long des simplex, et bien pour un maillage sphérique, on va interpoler linéairement un ensemble de sphères le long d'arêtes et de faces pour reconstituer un volume. Ici, vous voyez le résultat qu'on obtient avec 35 primitives. On est beaucoup plus proche de ce qu'était la forme d'origine pour un coup très similaire à ce que l'on avait tout à l'heure avec trop peu de triangles. Alors, la méthode que l'on propose, en fait, c'est deux choses. C'est dans un premier temps un modèle d'approximation automatique de forme qui génère ces maillages de sphères à partir d'un maillage polygonal quelconque. Et dans un deuxième temps, on verra que, une fois que ce maillage de sphère a été généré automatiquement à partir du scan, par exemple, d'une statue, on verra comment cette simplification, cette abstraction extrême de la forme peut être employée pour contrôler la géométrie d'origine. Et c'est typiquement le type d'application qu'on a envie de développer, les applications où on va charger des données numérisées brutes, en extraire une structure intuitive qui va permettre à un utilisateur de manipuler les données haute résolution d'origine. Alors commençons par quelques observations sur l'approximation extrême et ce qui se passe lorsqu'on essaie d'approximer très fortement une forme donnée. Si on prend la forme ici à gauche et puis qu'on se donne trois critères d'approximation, hein, 8 primitives, 4 primitives et 2 primitives, on voit que la nature même de l'approximant varie. Dans un premier temps, avec 8 primitives, on arrive à avoir une structure du maillage de sphère qui est homéomorphe à la géométrie d'origine. Et puis plus on va être contraint sur le nombre de valeurs que l'on retient de notre forme, plus on va jouer avec cette topologie-là, et en particulier la dimensionnalité de l'objet va changer. Et dans un premier temps, on va se retrouver avec une couche unique, qui représente en quelque sorte le squelette de notre forme, qui nous permet tout de même de reconstituer la géométrie complète. Vous voyez que par interpolation des sphères le long de cette couche unique, on reconstitue simplement avec 4 sphères quelque chose qui n'est pas si éloigné de l'objet d'origine. Et puis même si on pousse encore un peu plus loin et qu'on ne garde que 2 sphères, l'algorithme va générer automatiquement une structure qui devient unidimensionnelle, hein, une arête. Et là encore, l'interpolation linéaire de la géométrie des sphères le long de cette arête nous donne une approximation qui, pour très très peu de valeurs, hein, très très peu de bits en mémoire, représente assez fidèlement la forme d'origine. Alors, lorsque l'on fait de l'approximation, bon, essentiellement on fait de la géométrie numérique, et dans géométrie numérique il y a géométrie, hein, donc c'est une science de la mesure, on va commencer par essayer de définir comment une sphère approxime correctement un ensemble de polygones, et plus précisément même comment on mesure une distance entre une sphère et un polygone donné. Donc étant donné une sphère et un centre Q avec un rayon R, et puis un plan orienté, vous savez qu'en informatique graphique, en modélisation géométrique, pour nous les surfaces la plupart du temps sont orientées, il y a en particulier un vecteur normal qui nous indique dans quelle direction est l'extérieur de l'objet, on définit une mesure de distance, D, qui prend en compte cette orientation, de sorte que lorsque la sphère est localisée à l'intérieur de la forme, on n'a pas de pénalisation sur la distance. Mais par contre, si on inverse l'orientation du plan, une sphère qui n'a pas bougé dans l'espace se retrouve, avec cette mesure D, relativement éloignée de notre plan. À partir de cette mesure, on va essayer de définir comment une sphère donnée approxime correctement un ensemble de plans. Idéalement, on aimerait qu'une sphère approxime un très très grand ensemble de plans, puisqu'on a beaucoup beaucoup de polygones dans nos modèles numérisés. Alors, il se trouve qu'on continue de vouloir avoir cette contrainte, cette propriété qui est qu'on distingue l'intérieur de l'extérieur. Et il se trouve également que lorsque l'on élève au carré cette mesure de distance, eh bien en fait, elle dessine une quadrique dans l'espace, et que le minimiseur de cette quadrique nous donne la sphère optimale pour cette distance selon un ensemble de plans. Alors comment ça fonctionne en pratique? La distance au carré entre une sphère et un plan, c'est une quadrique dans l'espace, et la somme des distances au carré entre une sphère et un ensemble de plans, qui encore une fois pour nous sont les plans qui supportent les différents triangles qui forment notre maillage, c'est également une quadrique. On va donc pouvoir optimiser cette quadrique, la minimiser en l'occurrence, et trouver une sphère, une valeur unique, qui a un centre et un rayon, qui approxime le mieux possible, selon notre mesure, un ensemble de plans. On appelle cette mesure d'erreur quadrique la quadrique d'erreur sphérique, en référence à la quadrique d'erreur tout court, introduite en 1997 par Garland, et elle a plusieurs bonnes propriétés. En particulier, on va pouvoir, dans cet espace en quatre dimensions, effectuer une coupe, se restreindre de manière à distinguer les concavités des convexités. Et en particulier, on ne souhaite pas, dans le cas d'une concavité, avoir la sphère approximante localisée à l'extérieur de la forme. On va donc restreindre l'espace d'optimisation non pas à R4, mais à R3 croix R+, ce qui nous permet, dans les cas convexes, d'avoir une sphère qui est localisée quelque part au pic de la structure, et puis dans les cas concaves, un simple point, et puis après tout, une sphère de rayon 0, ça reste une sphère, et c'est tout à fait valide tant qu'on n'a pas besoin de jouer avec son volume. Alors, à partir de cette mesure de distance et d'approximation, on a notre pièce de base pour construire une approximation extrême de la forme, qui nous servira plus tard à l'analyse, et donc on va implémenter un algorithme d'approximation qui est progressif et qui emploie essentiellement une file à priorité. Donc, pour toutes les arêtes du maillage d'entrée, on va calculer la quadrique d'approximation associée à chacune de ces arêtes, autrement dit à la somme des plans incidents aux deux sommets de l'arête en question. Et puis, on va remplir notre file avec toutes les arêtes possibles, toutes les arêtes contenues dans le maillage, avec à chaque fois donc, les deux sommets de l'arête, la sphère optimale pour l'ensemble des triangles adjacents aux deux sommets de l'arête, et puis une fonction de coût, qui est précisément l'erreur, et qui va nous permettre d'ordonner ces différents éléments dans la file. Autrement dit, idéalement, on veut avoir l'arête qui provoque le coût minimum tout en haut de la file. Ensuite, pendant la simplification, on va tout simplement prendre l'élément de coût minimum, contracter l'arête, remplacer les deux sommets qui ont disparu par un unique sommet qui est formé de la sphère optimale, optimisée donc avec notre métrique d'erreur quadrique, à partir des plans incident aux deux sommets d'origine. Et puis, on va mettre à jour notre fil à priorité et itérer ce concept jusqu'à obtenir le nombre de sommets souhaités dans notre approximation. Donc, un algorithme progressif où, à toute étape, on va contracter une arête et générer des sphères qui, a priori, vont être de plus en plus grosses, mais qui vont progresser à la vitesse minimum, puisqu'on souhaite toujours commettre l'erreur minimum au fur et à mesure qu'on réduit la géométrie de l'objet. Alors, observons quelques résultats. L'avantage de cet algorithme, c'est qu'il est relativement stable et robuste, même sur un objet de topologie assez élevée. Ce que vous voyez ici, donc, c'est un objet de topologie élevée pour lequel on approxime progressivement l'objet avec un maillage de sphères. Ici, c'était la structure. Et puis maintenant, l'interpolation sphérique le long de la structure. On vient donc interpoler les sphères le long des arêtes et des faces de la structure de l'approximation. On voit qu'on a une dégradation progressive de la qualité d'approximation. Avec 120 sphères pour notre objet de tout à l'heure, on voit que pour beaucoup d'applications qui ont besoin d'interpréter une forme en trois dimensions, eh bien on a assez d'informations géométriques pour la retrouver. On voit ici un cas un petit peu plus retors. L'objet avait lui-même des sphères au départ, mais ces sphères sont constituées d'un grand ensemble de polygones. Et on voit que l'algorithme arrive à retrouver des sphères aux endroits qui étaient donc géométriquement sphériques et les retrouve de manière stable. Alors, outre ces propriétés-là, cette méthode d'approximation a plusieurs bons éléments de fonctionnement. En particulier, elle a tendance à localiser les sphères à des endroits qui paraissent naturels, qui nous paraissent naturels, aux jointures par exemple. Et puis le fait que la structure interne de notre maillage soit composée à la fois d'arêtes et de facettes nous permet aussi de représenter des zones planes. Ce n'est pas parce qu'on utilise des sphères en guise de sommet sur nos maillages qu'on n'est pas capable de représenter parfaitement des zones planes. En fait, un maillage, quel qu'il soit, est déjà un maillage de sphères. C'est simplement un maillage de sphères dégénérées où toutes les sphères ont un rayon nul. Alors j'aime particulièrement cet exemple parce qu'il montre pourquoi c'est de l'analyse de forme. Lorsqu'on pousse très fortement l'approximation sur cet objet-là, on va obtenir une forme, je crois, composée d'une douzaine de sphères et qui révèle énormément d'informations utiles sur l'objet, en particulier ses grandes composantes, qui sont modélisées la plupart du temps par un unique simplex, sa symétrie. On voit que la structure approximée est symétrique, et c'est une information qui peut être utile à un algorithme d'interprétation de forme. Et puis on voit que l'interpolation sphérique le long des simplex reconstitue, de manière assez troublante même, la géométrie de l'origine, alors qu'on n'a employé qu'une douzaine de sphères. L'ensemble de cette approximation est automatique et donc calculé à partir de la géométrie d'origine par l'algorithme de tout à l'heure. Alors, l'application que l'on fait de ces modèles d'approximation extrêmes à la modélisation interactive, c'est une application de déformation. En fait, on va essayer d'employer ces maillages sphériques, ces approximations à base de maillages de sphères, pour contrôler la géométrie de la forme numérisée, une géométrie qui arrive nue. Hein, lorsque vous avez un objet 3D qui a été créé par un infographiste dans un studio d'effets spéciaux, souvent l'objet 3D est très structuré, il a déjà un squelette, il a déjà beaucoup de méta-informations qui sont exploitables pour le transformer. Dans notre cas, si on part d'un scan, on a une géométrie nue, on a juste un ensemble de triangles, on essaie de retrouver cette structure de contrôle. Alors les structures de contrôle, c'est quelque chose d'assez étudié en informatique graphique. Vous avez vu tout à l'heure un exemple avec des cages, hein, c'est un thème complet du monde de la déformation. Notamment à partir des généralisations des coordonnées barycentriques qui ont été proposées récemment. On peut aussi employer des poignées de déformation qui s'appuient sur une analyse laplacienne de la surface. Et puis on peut enfin employer des squelettes de déformation qui sont très prisés dans l'industrie des effets spéciaux et du jeu vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'un maillage de sphères serait une bonne structure de contrôle alternative à ces trois catégories? Bien d'abord parce que, comme on l'a vu au tout début, elle a une dimensionnalité dynamique, cette approximation. Plus on va monter dans l'approximation, moins on aura de sphères, plus on va tendance à retrouver les grandes structures squelettiques, par exemple, d'un objet qui serait essentiellement tubulaire. Donc c'est une bonne chose de pouvoir localement se rapprocher efficacement de la géométrie et globalement être capable d'abstraire toute une zone par uniquement une arête et deux sphères à ces deux extrémités. Deuxième bonne propriété pour nous, la construction d'un maillage de sphères est automatique. Autrement dit, on n'a pas besoin de demander à l'utilisateur de placer les sphères lui-même à la main. On a un algorithme qui nous les place de manière optimale directement et qui, en plus, comme il est progressif, nous génère naturellement une structure multirésolution. En fait, atteindre 15 sphères dans notre structure à partir d'un millier de primitives, c'est générer exactement 985 niveaux de résolution, puisque à chaque fois, on va contracter une arête et diminuer de 1 le nombre d'éléments représentants. Donc l'utilisateur va avoir finalement une interface assez naturelle pour contrôler la forme d'entrée, où il va simplement sélectionner une échelle et travailler à cette échelle, revenir à la sélection, changer d'échelle, et puis affiner son résultat. Ça permet de modéliser progressivement. Les infographistes aiment ça en général, et même les utilisateurs, ils ne sont pas professionnels. Vous voyez ici un exemple du système de déformation où on a attaché la géométrie d'origine de l'objet à son approximation par maillage de sphère et on emploie l'approximation du maillage de sphère comme une interface intelligente sur la forme qui vient offrir à la fois un contrôle assez simple, on ne fait que manipuler des sphères dans l'espace, et quand même riche puisque simplement en poussant la molette de la souris, on va adapter localement la résolution du maillage de sphère au niveau de détail auquel on souhaite interagir avec la forme. Bien, donc c'est un exemple d'application de comment l'analyse spatiale de forme 3D peut être utile à des outils de modélisation interactive et notamment de déformation. Alors, l'analyse spatiale, c'est comment est-ce que je peux représenter une forme avec peu d'éléments dans l'espace en faisant en sorte que ces paramètres que j'ai extraits continuent à avoir un plongement dans l'espace qui a du sens, qui ressemble à la forme d'origine. Tout à l'autre extrémité du spectre, on a... je vais juste conclure là-dessus. Donc, on a introduit deux choses ici, un algorithme d'approximation par maillage de sphère à partir d'un objet polygonal, essentiellement en introduisant une métrique d'erreur dédiée à ça, et puis on a montré comment la structure pouvait permettre de contrôler la géométrie d'origine de manière intuitive. Donc voilà, je reprends ce que je vous disais à l'instant. L'approximation spatiale, c'est une chose, ça permet de manipuler des formes, par exemple, avec une structure plus simple, tout simplement parce que l'approximant a un plongement spatial qui est similaire à la forme d'origine. À l'autre extrémité du spectre, on peut avoir besoin d'effectuer d'autres types d'analyses sur l'objet, en particulier des analyses qui mettent en jeu une forme de reconnaissance des formes. La reconnaissance des formes, c'est la capacité à détecter qu'une structure se répète ou que deux des éléments sur la géométrie sont similaires. Là aussi, on est un petit peu à la frontière entre vision par ordinateur et modélisation géométrique. On va montrer ici qu'on peut employer l'analyse statistique donc, pour des outils de modélisation interactive. Alors, l'inspiration de ce travail-là, c'est en fait des travaux qu'on avait menés il y a quelques années, de 2008 à 2012 essentiellement, avec mes collègues de l'Université de Berlin, où nous avions conçu un moteur de recherche de formes 3D qui permettait assez facilement de retrouver des formes 3D dans de grands ensembles à l'aide de simples croquis, puis ensuite d'assembler des mondes virtuels en croquant grossièrement les éléments du monde en question. Donc derrière ce type de moteur, on a en fait une analyse par descripteur qui permet de ranger et d'organiser un très grand ensemble de formes 3D pour les retrouver plus tard. Alors le moteur est assez complet, il y a beaucoup de choses dans le moteur, mais à un moment ou à un autre, il a fallu arriver à mettre en relation ces petits croquis en noir et blanc avec la géométrie, qui potentiellement peut être assez complexe, des maillages que vous voyez montrés ici. C'est une forme d'analyse statistique. Et voilà un petit exemple du système Live, donc, qui a été publié à SIGGRAPH en 2012. L'utilisateur, finalement, fait une requête au moteur avec un dessin qui est de faible qualité, on va dire, et il obtient des formes relativement complexes qui correspondent à son dessin. Donc c'est une forme de Google de forme 3D, où à la place d'avoir des mots-clés, on a l'équivalent visuel des mots-clés, on a des petits dessins. Et vous pouvez voir que ce que je vous disais en introduction est tout à fait valide ici, l'interactivité, la performance interactive, ce n'est pas un bonus, ça fait vraiment partie de l'expérience d'utiliser un système comme celui-là. Si au fur et à mesure que l'on dessine, la requête se raffine et en temps réel, les résultats de la requête sont mis à jour, eh bien, on va avoir un comportement très différent de s'il faut attendre ne serait-ce que 20 secondes ou 10 secondes d'avoir un résultat. Donc voilà, l'inspiration des travaux que je vais présenter maintenant, c'était un petit peu ça, c'était on a appris à développer de la reconnaissance de formes interactives sur de grandes masses d'objets. Alors, est-ce que l'on peut s'en servir dans le cadre de la modélisation interactive? Et en particulier, est-ce que l'on peut en quelque sorte spécialiser un moteur de recherche visuelle à une forme particulière? Est-ce que l'on peut prendre une forme particulière et se dire, je vais instancier maintenant un moteur de recherche visuelle qui est spécifique à cette forme-là? Ça fait partie d'une direction de recherche que l'on mène dans l'équipe, qui s'appelle qu'on appelle l'interaction computationnelle, et qui vise en fait à rediriger le flot de puissance de calcul et le flot de données de la simulation des données en elles-mêmes, en quelque sorte, vers l'utilisateur, faire en sorte que la machine consomme plus de watts pour aider l'utilisateur plutôt que pour traiter les données. Et pour beaucoup d'applications, en fait, c'est très important d'arriver à faire ça. Donc le système que je vais prendre pour illustrer cette approche, c'est le système SimSelect qu'on a publié l'an dernier et qui permet de faire une tâche qui est à la fois très simple et très 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 fréquente en modélisation géométrique. Il permet tout simplement de sélectionner des choses sur un objet 3D. Mais il permet de sélectionner des choses de manière intelligente. C'est-à-dire que lorsque l'on va sélectionner une structure sur la forme, l'analyse statistique qui est effectuée à la volée sur la structure permet de retrouver l'ensemble des régions de la forme qui sont similaires à ce que l'on a sélectionné. Et ça, c'est une opération qui est très utile aux utilisateurs puisqu'elle va permettre de sélectionner un seul objet, y définir un traitement ou une modification et voir ce traitement ou cette modification répliquée sur l'ensemble des instances de cet objet-là. Alors, si l'objet avait été conçu dans un logiciel de modélisation interactive complètement, Maya, 3D Studio Max, etc., comme dans les studios d'effets spéciaux, eh bien, on n'aurait probablement pas eu à faire cette chose-là, parce que probablement que par construction, cette relation de similarité existerait. Maintenant, lorsque l'on prend un objet qu'on a numérisé automatiquement, elle n'existe pas, cette relation de similarité, cette relation d'attache entre plusieurs composantes d'une forme. Il faut donc la retrouver, et pour que le système soit efficace, il faut la retrouver en temps réel, puisque voilà, s'il faut 10 secondes pour repérer qu'il y a 4 pattes dans cet objet-là, l'utilisateur aura plutôt vite fait de sélectionner les 4 pattes à la main et puis de les traiter indépendamment. Alors, tout cela s'appuie sur essentiellement un moteur de détection de similarité sur nos formes, et ça c'est basé pour nous sur une forme de nomenclature des sélections. Hein, on sépare ça en 3 familles, la sélection de composantes, de parties et de patchs, enfin de régions qui sont plus locales. À partir de cette segmentation de ce type de sélection, eh bien on va définir un algorithme qui, à la volée, permet de retrouver toutes les zones similaires dans la forme 3D à ce que l'on a sélectionné au départ. Donc, je ne vais pas insister sur la partie sélection d'origine. Là, il y a quelque chose d'intéressant sur la manière dont on peut optimiser le plus efficacement possible les bords de la sélection, mais on va directement passer à la partie d'analyse, qui consiste donc à retrouver des régions qui sont similaires à celles que l'on a sélectionnées au départ. Alors, pour le premier type de sélection, les composantes, on a affaire ici à de petits objets qui sont isolés ou qui forment collectivement une forme plus complexe, mais qui en tout cas correspondent la plupart du temps à des deux variétés fermées. Ces deux variétés fermées, on va en extraire une signature, un nombre particulier en haute dimension qui prend la forme, en l'occurrence, d'un histogramme. Cet histogramme, il vient mesurer sur la géométrie de la forme, eh bien, en fait, l'orientation du plan tangent en chacun des points par rapport au vecteur qui amène le point à son barycentre. Pourquoi cette forme un peu originale de descripteur? Tout simplement parce qu'on souhaite pouvoir retrouver des formes qui ont éventuellement une orientation, une position et une taille différentes dans la scène. Donc on souhaite que ces invariances-là ne viennent pas biaiser les mesures de distance que l'on peut être amené à effectuer entre différents descripteurs correspondant à différentes régions dans la forme. Vous voyez ici un exemple d'une réplication d'une structure qui existe avec une géométrie très très proche à chaque fois, mais qui a simplement une orientation différente. Eh bien, en sélectionnant une, l'utilisateur peut instantanément obtenir les 3 autres sans avoir besoin d'aller cliquer sur elle. Deuxième type de sélection dans notre système, la sélection des parties. Ici, les parties sont toujours des objets d'une taille certaine, mais qui sont raccrochés à une géométrie plus grosse, et ils ne forment pas une entité séparée, hein, pas de composante séparée au sens de l'air. Alors ici, on emploie une approche qui est un petit peu mixte, hein. On fait un petit peu d'analyse différentielle, en particulier on analyse la courbure et le facteur de conformalité de la surface, et puis on fait un petit peu de statistique, on stocke un histogramme qui cette fois-ci va être unidimensionnel et qui enregistre donc la distribution de cette conformalité, que vous pouvez voir comme une fonction de la courbure sur la surface, qui vient caractériser la branche particulière, la partie particulière que l'on vient de sélectionner. Une fois qu'on a cette caractérisation, eh bien on va tout simplement la comparer à toutes les autres parties que l'on a pu détecter dans la forme. À l'issue de cette comparaison, à la mesure de distance entre les histogrammes de ces distributions de facteurs de conformalité, permet de retrouver les différentes parties qui ont une géométrie similaire. Troisième type de sélection ici, qui est complémentaire. On a fait une étude utilisateur qui montre qu'en fait, avec ces 3 types de sélection-là, eh bien, les gens sont assez confortables lorsqu'ils ont besoin de sélectionner des choses complexes sur une forme 3D. Donc, troisième type de sélection, une sélection qui est plus locale, qui correspond à des régions sur la surface et qui, quelque part, définissent des morceaux de géométrie qui existent surtout au travers de leur relief, hein, et beaucoup moins de leur topologie particulière, par exemple. Alors, dans ce cas-là, le problème est un petit peu plus complexe puisque plus la zone est petite, quand on la sélectionne, plus on a de candidats possibles sur la géométrie qui peuvent être éventuellement similaires à cette zone-là. Donc on va procéder en 2 étapes. Dans un premier temps, on va essayer de trouver des centres de régions candidats, c'est-à-dire des points sur la surface à partir desquels on pourrait faire naître une région qui est similaire à celle que l'on a sélectionnée. En fait, on va effectuer ça avec une carte de similarité que je vais détailler dans une seconde. Dans un deuxième temps, on va ensuite optimiser les bords particuliers d'une région sur ces zones cibles, de manière à ce qu'ils reproduisent le plus possible la géométrie de la région de référence, pour enfin obtenir donc la sélection automatique d'une région qui est similaire à celle qui servait de référence au départ. Donc, voilà une petite illustration de la carte de similarité des centres, qui permet de se choisir un ensemble de centres au départ. Et puis, lorsque l'on a une région particulière, pour calculer cette carte-là, on va en fait employer un descripteur qui est relativement proche de celui que je vous décrivais tout à l'heure, qui est aussi un histogramme, qui essaie de préserver un certain nombre d'invariances, mais qui prend plus en compte l'aspect surfacique de cette région et le fait qu'il y a quand même une direction privilégiée globale pour la tangence de la surface à cet endroit-là. Donc on va exprimer notre distribution en fonction de cette normale moyenne sur le patch. Une fois que l'on a cette carte de correspondance, on a donc des points sur la surface qui sont candidats à être des centres de régions similaires. On va effectuer deux choses pour retrouver la géométrie exacte des régions. D'une part, on va prendre la géométrie de la sélection de référence et la recaler avec un algorithme particulier sur la géométrie cible. Et puis d'autre part, on va employer une technique issue du machine learning, de l'apprentissage, un classifieur SVM, qui va nous permettre en fait, de déterminer localement si un point de la géométrie appartient ou pas à la région attachée au centre en question. Voilà un petit exemple maintenant sur un objet un petit peu plus complexe. Donc comme vous pouvez le voir, c'est totalement interactif et l'utilisateur a accès donc à ces différentes modalités de sélection et surtout à ce petit bouton magique en haut à droite qui, une fois qu'une sélection a été définie, retrouve les sélections similaires. Alors c'est un exemple joué pour montrer un peu comment ça fonctionne. Il faut imaginer comment ça fonctionne sur une scène où il y a beaucoup, beaucoup d'objets qui potentiellement ont énormément de répétitions. Alors je vous ai montré il y a quelques minutes un moteur de recherche de forme visuelle. Ici, on a un système qui permet très facilement de retrouver au sein de la forme les répétitions, les structures qui sont cohérentes entre elles, qui se ressemblent. En fait, on peut combiner à ces deux systèmes un troisième système que l'on avait développé il y a quelques années maintenant, qui, une fois que l'on a effectué tout ça, permet de transférer de la géométrie d'un objet source à un objet cible. Ça s'appelle GeoBrush. Nous avions développé ça avec nos collègues de l'université de Tokyo, Toronto et New York. Et c'est en fait une espèce de Photoshop 3D qui permet en fait de peindre sur un objet donné la géométrie d'un autre objet. Et il y a également une phase d'analyse ici, alors je ne vais pas la détailler en détail, mais on peut voir qu'en combinant de la reconnaissance de forme interactive, de la reconnaissance de forme à partir de dessins simples dans une grande masse de données, et puis ce transfert géométrique progressif et assez naturel, on a une petite idée de ce à quoi peuvent ressembler les outils de modélisation interactive du futur et peut-être des outils de modélisation qui seront plus disponibles à des utilisateurs qui sont novices et qui n'ont pas des capacités artistiques très développées. Obtenir ça à la main, faire ça à la main, ça aurait demandé vraiment une connaissance particulière des outils de modélisation géométrique. Et on vient donc de voir deux modalités d'analyse, une qui nous a permis de déformer dans des systèmes interactifs de la géométrie qu'on a numérisée, une autre qui nous a permis de mélanger, de retrouver, de mettre en correspondance différents éléments géométriques qui n'ont pas de structure a priori, qui sont simplement des listes de polygones. On va voir maintenant une autre modalité d'analyse, un peu différente, l'analyse morphologique, bien connue du traitement des images et de l'imagerie médicale, et qui, dans notre cas, n'est pas applicable directement aux données. Justement, l'objet de ce travail, ça a été de rendre l'analyse morphologique classique disponible aux données numérisées. Alors, repartons un petit peu sur le type de données que l'on manipule dans nos applications, et en particulier lorsqu'on les numérise sur la chaîne de capture. Donc, on retrouve des tas de scénarios d'applications industrielles où on a besoin de numériser rapidement et précisément des objets 3D. Les objets 3D sont de nature différente, ils vont être employés dans des applications différentes, mais ils partagent en général une naissance commune, c'est-à-dire que le capteur, au départ, a généré en général, d'une manière ou d'une autre, une carte de profondeur de l'objet que l'on numérise, et puis un ensemble de cartes de profondeur d'une forme 3D ont été consolidées pour former un nuage de points. Ce nuage de points, on reconstitue un maillage à partir de celui-ci, et c'est à partir de ce maillage que la plupart des choses que je vous ai expliquées jusqu'à présent sont effectuées. C'est-à-dire qu'on va faire l'analyse, du traitement, de la déformation, etc. Or, l'analyse en elle-même peut être utile à la phase de reconstruction. En fait, elle peut être utile tout du long de cette chaîne d'application. Et elle arrive relativement tard dans la chaîne, à un moment où on a déjà pris un certain nombre de décisions sur le nombre de points qu'on allait garder, sur la connectivité et la topologie de la surface, et au final sur le degré de filtrage que l'on acceptait pour représenter notre forme. Donc, pour nous, l'objectif dans cette phase-là, ça va être de rapprocher l'analyse de la phase de capture, de l'avoir la plus en amont possible, le plus tôt possible dans le procédé, de manière à pouvoir profiter de ces informations, de ces paramètres extraits par l'analyse, pour mieux reconstruire et obtenir de meilleurs objets à la fin. Alors, on a choisi en particulier d'utiliser une méthodologie particulière d'analyse ici, la morphologie mathématique, pour une raison simple, c'est qu'elle a un petit nombre d'opérateurs et un grand nombre d'applications possibles, ce qui nous permettait de réduire énormément le nombre de choses à faire, entre guillemets, pour pouvoir avoir quand même beaucoup d'applications derrière qui exploitent cette approche. Alors voilà quelques-uns des exemples des transformations de haut niveau qu'on est capable de faire avec ce type de framework. Vous avez ici une géométrie numérisée qui existe sous la forme d'un nuage de points très dense. Et automatiquement, on peut prescrire la taille des objets que l'on souhaite supprimer sur cette géométrie. Alors notez en particulier que les détails géométriques de l'objet ne disparaissent pas, mais que par contre, des composantes entières disparaissent. Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on aurait beaucoup, beaucoup de mal à obtenir par filtrage, par exemple, qui probablement nécessiterait une intervention manuelle à cet endroit-là. Deuxième exemple d'application, la transformation topologique. Il y a beaucoup d'algorithmes en modélisation géométrique qui supposent que la topologie de l'objet est relativement simple. Lorsque la topologie de l'objet devient plus compliquée, un certain nombre de choses qu'on ne sait plus bien faire, ou en tout cas qu'on fait mal, et il peut être utile par moment de réduire la topologie de l'objet vers quelque chose de plus simple. Notez ici qu'on a beau réduire la topologie de l'objet, les détails de la forme sont préservés partout où ils le peuvent. Troisième application, je vous parlais tout à l'heure de structuration et de la capacité à analyser une géométrie brute pour en extraire une structure. Parmi les structures que l'on peut imaginer, il y en a une qui est assez connue, c'est l'axe médian de la forme. Et on voit ici une évaluation sur un objet relativement complexe de l'axe médian de l'objet, uniquement en partant des points, sans jamais reconstruire de surface explicitement. Alors notre approche s'appuie sur essentiellement deux éléments. D'une part, ce que l'on appelle les surfaces de points. Ce n'est pas parce qu'on ne reconstruit pas une surface explicitement à partir de notre nuage de points qu'on ne peut pas en avoir un petit peu tous les bénéfices. Et en particulier, à partir d'un ensemble de points, on peut définir une surface par projection. L'idée de la modélisation géométrique par projection, c'est en fait de représenter la surface au travers d'un opérateur qui projette l'espace environnant de la forme sur la surface. Autrement dit, on ne va jamais vraiment être capable d'itérer sur la surface, mais pour tout point de l'espace, on va être capable de projeter ce point sur la surface modélisée par notre ensemble de points. Alors souvent, on passe par un opérateur de projection assez simple, puisqu'on est appelé à faire un très très grand nombre de ces projections-là. Donc étant donné un ensemble de points donnés ici, qui ont été numérisés avec un scanner par exemple, ici en gris avec leur normale en noir, et étant donné un point X dans l'espace, la procédure de projection fonctionne comme ça. On va caler localement, on va optimiser localement une primitive géométrique qui va s'approcher le plus possible des points qui sont dans le voisinage de X. On va ensuite projeter X sur la surface et l'on va itérer le procédé jusqu'à stabilisation. On cherche le point fixe de l'opérateur. Lorsque l'on a trouvé un point qui ne bouge plus, c'est essentiellement que ce point est sur la surface de l'objet défini par cet ensemble de points. Et c'est avec cette... Alors, il y a eu beaucoup de travaux sur cette chose-là. On appelle ça donc des surfaces de points, point set surface, PSS en anglais. Et il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à noter, c'est qu'une fois qu'on a cet opérateur de projection, on retrouve déjà beaucoup des opérateurs de traitement géométrique naturels, à savoir le filtrage, le raffinement, la simplification, qu'on pourrait traduire par sous-échantillonnage et sur-échantillonnage, et puis le rééchantillonnage de nos objets. On a donc déjà beaucoup, beaucoup de primitives géométriques qui nous permettent de faire du traitement alors qu'on n'a toujours pas reconstruit de surface. On n'a pas tissé de triangle, on n'a pas de surface NURBS, on n'a pas de forme paramétrique à notre surface. On s'appuie donc sur cette approche projective de la géométrie, et en particulier sur ces travaux-là, notamment les travaux d'Amenta, qui ont proprement défini ce qu'était une surface de points, l'interpolation hermitienne d'Alexa, qui permet de bien préserver les concavités sur notre géométrie échantillonnée par des points, et puis on se verra plus tard, on se compare régulièrement à ce qui est probablement, enfin, à mon sens en tout cas, le meilleur modèle de surface de points actuel, les surfaces de points algébriques hein, de Guenebaud et Gross. Voilà, donc c'était le premier élément sur lequel on s'appuie pour effectuer notre analyse morphologique. Le deuxième élément, évidemment, c'est la morphologie mathématique. Alors la morphologie mathématique, je vais essayer de vous en faire un résumé rapide, c'est un thème très très vaste. C'est essentiellement un framework d'analyse de forme qui s'appuie sur deux opérateurs, l'érosion et la dilatation. Et c'est un framework qui va permettre de combiner ces deux opérateurs en employant un élément structurant, une petite forme simple, spécifique, qui va nous donner une analyse particulière de la forme, pour obtenir des formes qui sont érodées ou dilatées. On peut voir ça comme de l'ajout, de la suppression de matière sur notre forme. En fait, l'éroder et le dilater en soi, ça a quelques applications, mais ce n'est pas véritablement ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à combiner les opérateurs entre eux, on peut calculer des fermetures, des ouvertures, et on peut créer des programmes morphologiques qui étudient la forme au travers des transformations qu'elle subit sous ces opérateurs, sous ces éléments structurants. Alors, si on redétaille un petit peu plus en détail, c'est donc ces deux opérateurs de base. La vision un petit peu ensembliste des choses, c'est de considérer que l'on effectue une somme de Minkowski sur la surface de l'objet, où l'on vient sommer en tout point de l'objet l'élément structurant, ici une sphère, pour créer plus de matière, créer un nouvel objet qui a enflé essentiellement. On peut repérer que, lorsque l'on fait ça, il y a un certain nombre de détails qui apparaissent, en particulier ici une singularité qui est très importante. Elle est vraiment très importante parce qu'elle enregistre quelque chose de fondamental sur la forme au départ. Et on souhaite vraiment la préserver le mieux possible Alors peut-être pas lorsque l'on n'effectue qu'une seule opération, mais lorsque l'on commence à enchaîner les opérations entre elles, on souhaite faire survivre cette information le plus loin possible. Donc ça veut dire qu'il faut être relativement précis lorsque l'on fait ces calculs. Deuxième opération de base de la morphologie mathématique, l'érosion, qui, donc dans le cadre ensembliste, est vue comme une soustraction de Minkowski. Autrement dit, pour tout point de la surface, on vient retirer le volume de l'élément structurant, donc on vient peler en quelque sorte la géométrie. De nouveau, on va observer des choses intéressantes. D'une part, on a déconnecté la géométrie, la topologie de la forme a changé. Et d'autre part, on a de nouveau des singularités qui sont apparues. Et ces singularités portent encore une information très utile. Précisément ici, c'est deux singularités qui se font face. Elles modélisent essentiellement la déconnexion que l'on est. Donc, encore une fois, on souhaite préserver ces choses. Alors voilà quelques exemples d'altérations morphologiques sur une forme. Au passage, toutes les images que je vous montre ont en fait été générées avec notre framework, puisqu'il fonctionnait, on s'en est servi aussi pour illustrer la morphologie classique. Vous pouvez voir ici donc un dilaté sur une main avec quatre éléments structurants différents qui vont donc fournir une géométrie différente in fine, des structures différentes, des singularités différentes sur l'objet qui vont révéler quelque chose de particulier à l'objet. Cette fois-ci, avec un élément structurant sphérique, on voit donc le dilaté, l'érodé, la fermeture et l'ouverture. Alors on voit déjà que la fermeture a potentiellement beaucoup d'applications. Il y a beaucoup de cas où on souhaite simplifier toutes ces concavités qui ne sont pas utiles à la simulation, mais qui viennent complexifier les calculs et remplacer les objets par des objets plus simples. Donc on est aussi quelque part pas très très éloigné de l'approximation dont je vous parlais tout à l'heure, l'analyse par approximation dont je vous parlais tout à l'heure. Bien, alors comment implémenter ça sur des nuages de points ? On essaie de mettre face à face deux choses assez différentes. Les nuages de points d'un côté, la morphologie mathématique de l'autre. Bon, il y a eu quelques essais, il y a quelques années, de personnes qui ont essayé de répliquer la vision ensembliste de la morphologie mathématique sur des nuages de points, essentiellement en envoyant un très très grand nombre d'éléments structurants près des points. Il est évident que c'est une solution vouée à l'échec. Essentiellement, on va mal modéliser ces singularités si importantes dans l'analyse morphologique, et puis surtout, on va en faire émerger quelques-unes qui sont fausses. Et c'est encore plus visible lorsque l'on observe le résultat sur une véritable reconstruction en trois dimensions. On a vraiment créé des structures qui n'existaient pas dans la forme et qui n'ont pas lieu d'exister par analyse morphologique. Alors, nous, notre approche, finalement, elle utilise la vision projective, mais dans le cadre de la morphologie mathématique. On va voir le dilaté ou l'érodé d'une forme au travers d'un opérateur de projection qui va directement nous projeter n'importe quel point de l'espace sur le dilaté ou sur l'érodé. Si l'on combine cela avec un échantillonneur efficace, on peut enchaîner des traitements morphologiques sans jamais avoir à reconstruire de surface, simplement en manipulant des points dans l'espace. Alors comment ça fonctionne en pratique ? Étant donné un point X et un élément structurant, au lieu de sommer un très très grand nombre d'éléments structurants sur la surface de notre objet, eh bien en fait on va en optimiser un seul, ou en tout cas un petit nombre. Cet élément structurant, il va falloir l'enrichir pour pouvoir effectuer cette optimisation, et ensuite projeter donc notre point X dans l'espace à sa surface. Lorsque l'on a effectué cette projection, on montre dans l'article, dans le travail en question, qu'en fait, on a vraiment reproduit la morphologie, on appelle ça la morphologie projective en l'occurrence, on a vraiment reproduit le comportement de la morphologie classique par somme de Minkowski. Et donc, si on évalue cet opérateur dans beaucoup de points de l'espace, eh bien, on échantillonne en fait le dilaté. Alors, notre méthodologie pour traduire la morphologie dans le contexte des nuages de points, elle s'appuie sur plusieurs pièces nouvelles. Bon, d'une part, il faut redéfinir l'élément structurant un petit peu, il faut l'enrichir. Alors pourquoi est-ce qu'il faut l'enrichir ? Parce qu'on va se servir de l'élément structurant, pas pour simplement faire une somme, mais pour effectuer une optimisation. Donc, outre le centre et la géométrie de l'élément structurant, on va stocker explicitement, modéliser explicitement la frontière de cet élément structurant, et puis on va l'enrichir d'un champ scalaire qui doit avoir le comportement d'un champ de distance, qui nous modélise en fait la distance à la frontière donc, de notre élément structurant. Alors à partir de cet élément structurant, on va donc pouvoir définir ce qu'est la projection d'un unique point. Et dans un premier temps, je vais juste essayer de définir comment projeter un point dans l'espace sur le dilaté ou l'érodé de la forme. Cet opérateur de projection, donc, on va dans un premier temps considérer qu'on a un modèle de surface continue. Bon, on ne l'a pas évidemment, on a juste des points, mais on va considérer qu'on a ce modèle. Idéalement, on aimerait optimiser dans l'espace topologique de la surface le centre de l'élément structurant de manière à minimiser la distance entre x et la frontière de l'élément structurant pour venir explorer donc le dilaté. En l'occurrence, une fois que cet élément structurant a été optimisé, on l'appelle son centre ici optimal C étoile, on va pouvoir calculer la projection et venir inspecter le dilaté Px de notre objet. Bien évidemment, on n'a pas de modèle continu de surface. Tout ce qu'on a, c'est des points. Mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'un modèle complet de surface, on a juste besoin d'un modèle qui nous indique, grosso modo, quelle est la proximité de la surface en un point de l'espace. Et on va donc utiliser notre ensemble de points, et la même approche finalement que la modélisation par surface de points, où un point donné de l'ensemble de points de départ va avoir une pondération, une importance dans la représentation de la géométrie locale qui est proportionnelle à sa distance à x. Lorsque l'on a fait ça, on représente finalement localement la surface comme un vecteur gaussien qui nous permet de modéliser de manière continue une optimisation de notre centre d'éléments structurants. C'est tout bêtement un mean shift, pour ceux qui connaissent, donc un algorithme bien connu de l'optimisation classique continue, qui va nous permettre d'ajuster localement l'élément structurant à notre surface. Alors, on est toujours en train de projeter un unique point dans l'espace, mais on n'a pas véritablement défini un dilaté. En fait, en fonction de la position du point dans l'espace, on est en train d'explorer soit le dilaté, soit l'érodé de la forme. Hein, quelque part, cet opérateur, il définit deux croûtes, une à l'intérieur, une à l'extérieur de la forme. Donc, il faut pouvoir distinguer ça, puisque vraiment, dilaté et érodé n'ont pas les mêmes propriétés quand on s'en sert véritablement pour analyser la forme. Alors, pour faire cela, on va en fait avoir besoin de définir quand même un peu l'intérieur de la forme. On ne veut toujours pas reconstruire un modèle continu de surface, complet, explicite, paramétrique, mais on a besoin de déterminer si x est à l'intérieur ou à l'extérieur de la forme, parce qu'en appliquant l'opérateur qu'on a eu jusqu'à présent, selon que x est dedans ou dehors, eh bien on va tomber sur l'érodé ou le dilaté. Pour ce faire, on exploite un résultat d'Amenta en 2004, qui montre que la forme implicite de l'opérateur de projection des surfaces de points nous permet en fait d'approcher un champ intérieur-extérieur. Alors ça se rapproche un petit peu des surfaces implicites classiques, et simplement, c'est défini uniquement à partir de l'ensemble des points du nuage de points d'origine et de leur normale. Donc on va employer cette information-là et s'en servir pour décider, lorsque l'on effectue une projection donnée, si le point doit rester où il est et être projeté donc sur l'élément structurant ou être symétrisé par rapport à la surface avant d'être projeté. Grâce à ça, on est maintenant capable de projeter n'importe quel point de l'espace sur soit le dilaté, soit l'érodé. On a presque gagné puisque tous les programmes morphologiques enchaînent ces deux opérations. La seule chose qui varie ensuite, c'est la forme de l'élément structurant. Il nous faut néanmoins, en général, projeter plus d'un point. Il va donc falloir équiper le système d'un échantillonneur, une machine qui est capable de générer un nouvel ensemble de points pour le dilater ou pour l'éroder. Alors, je ne vais pas détailler cet échantillonneur, parce qu'il y aurait plusieurs choses à dire, mais je n'ai pas le temps. Essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a de bonnes propriétés spectrales, celui que l'on propose ici. C'est un échantillonneur en disque de poisson, donc qui assure que les points sont relativement bien distribués. Et en plus, il prend en compte la nature morphologique de ces espaces que l'on est en train d'échantillonner. Et en particulier, un échantillonneur classique va avoir tendance à distribuer des points sur une surface de manière à les rendre équidistants. Nous, on a besoin de modéliser toutes les structures qui apparaissent ou vont apparaître sous la morphologie. Et donc, pour cela, on va devoir à certains endroits avoir un taux d'échantillonnage qui est probablement plus élevé que celui que l'on souhaiterait avoir si notre surface était une surface toute simple qui ne vient pas de la morphologie. Notez en particulier ici que dans les zones extrêmement concaves, on a envie vraiment de modéliser les deux côtés de cette concavité. Alors pour y arriver et pour optimiser correctement notre ensemble de points, je pense que l'élément vraiment original dans cet échantillonneur, c'est en fait de nouveau une mesure de distance qui définit la distance entre deux points, déterminer s'ils sont trop proches et donc s'ils sont un peu redondants ou pas, non seulement en regardant la position 3D des points en question, mais également en regardant la position 3D des éléments structurants qui les ont générés. De sorte que si cette position est suffisamment éloignée, on considère que les deux points représentent quelque chose de différent sur la surface, des régions différentes. Donc voilà, l'échantillonneur en question fonctionne comme ça et permet d'avoir une distribution de points qui est de bonne qualité. Alors voilà un exemple d'altération morphologique sur un nuage de points assez complexe, avec le dilaté, qui a tendance donc à faire gonfler la forme, l'érodé qui découpe l'objet en structures séparées, qui séparent les composantes, la fermeture, qui va avoir tendance à remplir les trous, et là on voit que les altérations topologiques qui ont lieu sont pas triviales, sont hautement non linéaires, et puis l'ouverture, qui, comme l'érodé, découpe les composantes, mais a tendance à retrouver leur volume dans la deuxième phase de l'opérateur. Alors, avec cet opérateur d'analyse-là, on est en fait capable maintenant d'implémenter de manière assez simple des primitives de traitement automatique qui vont être appliquées directement au nuage de points numérisé. Et quand je dis de manière assez simple, c'est-à-dire qu'on va simplement combiner un petit ensemble de ces opérateurs morphologiques dans un certain ordre, avec certains éléments structurants, et l'effet que vont avoir ces combinaisons, ces séquences, sera parfois assez saisissant. Exemple ici avec le filtrage de formes. Souvent, on a besoin d'éliminer les petites entités dans les formes numérisées, parce qu'elles sont trop petites et qu'on ne saura pas les manipuler dans les outils de traitement qui arrivent derrière. Alors si on effectue ça par filtrage, on est capable bien sûr de trouver un support pour un filtre qui va avoir pour effet d'éliminer ces structures-là, mais on remarque au passage que en général, ça va avoir une altération sur toute la géométrie et beaucoup de détails vont disparaître au passage. Si vraiment on souhaite filtrer la forme et non pas le signal géométrique, ce qu'on souhaite faire, c'est donc retirer des composantes géométriques qui ont une certaine taille prescrite et préserver toutes les autres. C'est ce qu'on obtient ici en combinant une ouverture et une fermeture. Vous pouvez voir que contrairement à l'approche par filtrage linéaire, ou quelque chose qui ressemble à du filtrage linéaire, on a en fait une suppression des parties saillantes tout en préservant les détails là où il n'y a pas de géométrie à supprimer, là où il n'y a pas de composante d'une taille prescrite présente. Deuxième exemple d'application, quelque part plus simple dans l'expression, mais encore plus complexe dans le résultat, la simplification topologique. Simplifier topologiquement une surface, souvent, ça veut dire en fait réduire son genre. Ici, cette surface, elle a un genre 52. Ça signifie grosso modo qu'il y a 52 trous dans la forme. Réduire cette topologie de manière à rendre l'objet plus simple, plus facilement interprétable pour un moteur de reconnaissance de forme, par exemple, par filtrage, ça nous amène à ce type de structures qui ont perdu l'essentiel des détails intéressants de notre géométrie. Si on effectue une simple fermeture avec la même taille de support, on a à peu près le même effet topologiquement, c'est-à-dire qu'on a fermé tous ces trous, mais on a un objet de genre 0, qui est grosso modo une patatoïde, mais on a le signal géométrique de haute fréquence qui est correctement préservé partout où ça n'avait pas de sens de l'altérer. Et a priori, pour boucher tous les trous que vous voyez à gauche, il n'était pas nécessaire de supprimer toutes ces structures qu'il y avait sur la surface. Troisième type d'application, toujours autour de l'analyse pour la modélisation, et en particulier de l'analyse lorsque l'on cherche à structurer les données, l'extraction d'un axe médian. Un axe médian, c'est donc cette pellicule qui est équidistante en au moins deux points des surfaces, qui souvent est appelée squelette sur un objet 3D. Et bien, lorsque l'on est dans le cadre d'une numérisation 3D avec un nuage de points en entrée, le nuage de points, souvent ou parfois, il peut être incomplet. Donc, vous voyez clairement que le calcul de l'axe médian avec une méthode assez standard, ici le PowerCrust, génère beaucoup de structures, beaucoup trop de structures en fait. On n'a pas besoin de tout ça pour représenter le squelette de cette statuette de danseuse. Par évaluation morphologique, vous trouverez dans l'article, j'ai pas le temps de le décrire ici, mais vous trouverez dans l'article une méthode qui exploite en fait l'érosion pour venir échantillonner progressivement l'axe médian sans jamais avoir à reconstruire la surface et sans jamais créer trop d'informations. C'est la pire des choses qui puissent arriver lorsqu'on analyse un objet 3D, c'est de générer trop d'informations, une information qui devient complètement fausse au bout d'un moment. Voilà, on vient donc de voir trois applications sur une méthodologie d'analyse morphologique pour des nuages de points. Puis plus globalement, on a vu trois types de méthodes d'analyse pour la modélisation géométrique. Dans un premier temps, l'analyse spatiale, qui, grosso modo, essaie de représenter avec un petit ensemble de nombres, un petit ensemble de valeurs, une forme 3D complexe. On l'a appliquée au contrôle interactif de forme dans la déformation. Deuxième type d'analyse, la modélisation collaborative et notamment la reconnaissance de forme. Je n'ai pas eu le temps de mentionner le système CoffTree, mais le système SimSelect montre que l'on peut exploiter l'autosimilarité dans une forme pour venir sélectionner plus efficacement et plus facilement des zones dans différentes régions de l'objet 3D. Et puis enfin, l'analyse morphologique, dans le cadre de la géométrie numérisée, être capable d'appliquer cette analyse, de l'utiliser très très tôt dans le pipeline, au moment où la géométrie est générée, eh bien, on a vu que ça permettait d'effectuer des transformations assez puissantes, simplement en combinant ces opérateurs morphologiques. Alors, quelles sont les perspectives à partir de là ? Évidemment, on peut prendre chacun de ces thèmes et essayer de les pousser plus avant, mais c'est souvent à l'interface entre ces thèmes qu'il y a les choses les plus intéressantes à faire. Notamment lorsqu'on essaie de mélanger analyse spatiale et analyse statistique, est-ce que l'on peut déterminer un modèle de forme statistique, c'est-à-dire un modèle de forme non pas pour un objet, mais pour une classe d'objets, une classe d'objets qu'on aurait mesuré dans la nature et pour lesquels on souhaiterait avoir un petit ensemble de paramètres qui leur sont propres. Dans notre communauté, la co-analyse se développe beaucoup depuis 2 ou 3 années et clairement, mélanger analyse spatiale et analyse statistique a beaucoup d'avenir lorsque le nombre d'objets numérisés grandit très fortement. Deuxième type de combinaison qu'on peut imaginer, ou en tout cas d'espace de recherche, la capacité à mélanger l'analyse spatiale et l'analyse morphologique. Quelque part, l'analyse morphologique, c'est une forme d'analyse spatiale. Mais simplement, on ne l'a pas encore exploité aussi puissamment qu'on le peut lorsqu'il s'agit de définir des structures de contrôle, par exemple. Évidemment, assez peu exploité dans l'informatique graphique jusqu'à présent, puis on espère pouvoir le faire très bientôt. Troisième type de combinaison possible, comment mélanger analyse statistique et analyse morphologique. Autrement dit, comment modéliser l'altération géométrique d'une forme sous la morphologie, ou topologique d'une forme sous la morphologie, en général, non pas pour une forme particulière, mais pour une classe de formes, ou pour un ensemble de structures ayant une signature similaire. Voilà, et puis évidemment, on est chercheur, donc on s'intéresse surtout à ce qui est éventuellement ici. Est-ce qu'on peut avoir un unique framework d'analyse, une unique méthodologie d'analyse qui permette à la fois de représenter des objets complexes de manière compacte, avec peu de valeur, qui permette d'en extraire des signatures pour pouvoir les reconnaître et faire en sorte que la machine les reconnaisse, ce qui est déjà une forme d'intelligence, et puis effectuer des transformations géométriques et topologiques complexes, telles que la morphologie nous en propose. Bien, ces travaux, ce sont des travaux que j'ai effectués avec mes doctorants, ils ont travaillé très dur là-dessus, donc j'aimerais vraiment beaucoup les remercier. Stéphane Calderon, Émilie Guy et Jean-Marc Thierry, notamment sur les trois projets que je vous ai présentés ici, Sphere Mesh, Sim Select et Point Morphology. Vous retrouverez sur ma page ces publications avec tous les détails mathématiques et pour certains des démos, des programmes que vous pouvez tester vous-même. Et je vous remercie pour votre attention.